Bonjour et bonsoir. Bienvenue à cet appel de renforcement de compétences date large de 2016. Il s'agit du quatrième séminaire web sur le sujet mise à jour de la concurrence, la confiance des consommateurs et le choix du consommateur du point de vue de l'équipe de révision le 25 mai à 22h UTC. Je rappelle tous les participants connectés à travers le téléphone ou à travers l'ordinateur de mettre leur ligne en muet s'ils ne parlent pas et également de dire leur nom au moment de parler pour la transcription et pour que les interprètes vous identifient sur les canaux de langue. Nous avons les interprètes de français et d'espagnol et je donnerai maintenant la parole à Tijani Bergema, présidente du groupe de travail de renforcement de compétences. Tijani, vous avez la parole. Tijani au micro. Merci Terry. Bonjour et bonsoir à tous. Nous sommes réunis pour notre quatrième séminaire web dans le cadre du programme de formation de compétences de 2016. Le sujet d'aujourd'hui est une mise à jour de l'équipe de révision sur la concurrence, le choix du consommateur et la confiance des consommateurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir quatre présentateurs. Nous aurons nos deux représentants au sein de l'équipe de révision, Carlton Samuels et Jonathan, et du personnel ICANN, nous aurons également Margie Milam. De même, nous aurons Jonathan Souk, à qui je souhaite la bienvenue. Et nous aurons également Kyle ICANN, notre autre représentant au sein du groupe. Avant de commencer, je voudrais faire quelques annonces, et c'est Derek qui sera chargé de les faire. Terry au micro, merci Tijani. Donc, nous allons faire quelques annonces. Si vous avez des questions pour les présentateurs, vous verrez qu'en bas de la page, en bas de l'écran à gauche, vous avez un casier qui vous permet de saisir vos questions. Si nous n'avons pas suffisamment de temps pour répondre à vos questions au cours de ce séminaire web, nous allons publier les réponses sur notre page web. En outre, nous avons des services de Scribe aujourd'hui que vous voyez sur l'écran en bas de la page. Et en outre, nous aurons trois questions au sujet du séminaire web ainsi que des questions pour évaluer notre appel. Lorsque le moment sera venu, l'évaluation de nos services et les questions concernant le séminaire apparaîtront sur le bas de l'écran à droite. Merci, je donne la parole à Margie Milam. Margie Milam prend la parole. Merci Terry. Bonjour et bonsoir à tous. Comme Tijani a très bien dit, je m'appelle Margie Milam et je suis membre du personnel de l'ICANN dans le département appelé Département de la stratégie multipartite et des initiatives stratégiques. Ce département est responsable de beaucoup de projets très intéressants au sein de l'ICANN, mais mon travail spécifiquement porte sur les révisions de l'ICANN. Les révisions sont très importantes pour l'ICANN puisqu'elles garantissent que l'ICANN continue d'évoluer et d'aborder les besoins de la communauté. Lorsque nous évaluons les révisions, vous verrez que nous allons nous concentrer sur une révision spécifique plus tard dans la présentation, nous les évaluons de différents points de vue. À l'ICANN, nous voulons encourager cette culture d'amélioration continue. Et les révisions sont justement conçues pour ce faire. Lorsque nous faisons des révisions de l'ICANN, nous essayons de nous concentrer soit sur un sujet spécifique, soit sur une structure spécifique de l'ICANN pour voir comment l'améliorer. Par exemple, il serait possible de se concentrer sur un sujet tel que la sécurité, la stabilité et la résilience du système de nom de domaine. Et nous verrons si nous appliquons les meilleures pratiques disponibles à ce domaine pour assurer une bonne performance de l'ICANN. De même, nous voulons être à jour avec les différentes tendances commerciales et garantir que nous travaillons aussi efficacement que possible. Les révisions, en même temps, considèrent l'engagement de l'ICANN et la liste complète d'engagements qui sont compris dans les statuts constitutifs pour garantir que tout y sera respecté. Et pour bien sûr, nous assurer que nous suivons nos engagements. À travers les révisions, en même temps, nous considérons les différents sujets, les différentes structures au sein de l'ICANN pour assurer que nous les faisons correspondre à la vision et au plan stratégique de l'ICANN pour garantir que l'ICANN respecte sa mission et n'a pas de dérive en dehors de sa portée et de son mandat. Donc voilà les bénéfices des révisions qui sont menées au sein de l'ICANN. Comme je l'ai dit, nos révisions sont très importantes parce qu'elles renforcent la responsabilité et la transparence de l'organisation. À ce point-là, en ce moment, nous travaillons sur la transition du rôle de supervision des fonctionnaires, et ce moment est donc très important pour l'équipe de l'ICANN, pour le personnel de l'ICANN, afin de pouvoir montrer au monde que nous sommes en train d'évoluer, que nous avons mûri, et que le monde et l'écosystème de l'Internet changent. Et surtout, pour montrer que les contributions de la communauté sont considérées pour garantir que nous respectons nos engagements et que nous sommes dans la portée de notre mandat. C'est ce que nous faisons à travers les révisions aussi. Vous verrez que les révisions s'efforcent vraiment de pouvoir obtenir des contributions qui soient variées et diverses en termes de géographie. Nous essayons également d'avoir un équilibre entre les différents genres qui participent. Nous voulons avoir autant de diversité que possible au moment de considérer les différents sujets qui font l'objet de nos révisions. Cet aspect est très important pour le cycle des révisions. Et du point de vue du personnel, surtout, nous essayons toujours d'intégrer de nouvelles perspectives, d'inclure des participants qui peuvent partager leur expertise pour aider l'ICANN. Or, concernant les types de révisions, nous avons deux types de révisions au sein de l'ICANN, dont l'une est la révision sur l'affirmation d'engagement, qui est un document. L'affirmation d'engagement est un document où l'ICANN définit la relation entre le gouvernement des États-Unis et l'ICANN. Dans l'affirmation d'engagement, nous nous sommes engagés à considérer différents aspects du travail de l'ICANN, entre lesquels nous avons l'engagement de réviser la responsabilité et la transparence de l'ICANN tous les 3 ans. Et nous avons une équipe spécifique chargée de cela qui s'appelle ATRT. En même temps, vous verrez que nous nous occupons des aspects de concurrence, de choix du consommateur et de confiance des consommateurs en ce concernant le lancement du programme des nouveaux GTLD. Donc, l'équipe de révision considère comment le programme des nouveaux GTLD et l'attribution des nouvelles extensions a contribué au domaine de la concurrence et du choix du consommateur et de la confiance des consommateurs. Un autre domaine que nous considérons très sérieusement est la sécurité, la stabilité et la résilience de l'Internet. Donc, nous aurons une révision qui sera lancée cette année pour évaluer comment l'ICANN gère les problèmes concernant la sécurité, la stabilité et la résilience. Et puis, le dernier type de révision compris dans l'affirmation d'engagement est celui qui porte sur le WHOIS. Donc, dans ce cadre, nous évaluons la politique du WHOIS, comment elle est mise en œuvre et si elle respecte les besoins de l'application de la loi et de la communauté Internet en général. Donc voilà les révisions de l'affirmation d'engagement qui sont menées par les membres de la communauté. En général, les membres le font à travers différentes révisions telles que définies dans l'affirmation d'engagement et ce groupe de personnes sont désignées par les différentes organisations de soutien et les différents comités consultatifs de l'ICANN pour les représenter au sein de ce groupe. L'idée est que les équipes de révision soient donc un groupe divers de personnes qui représentent différents points de vue. Et l'affirmation d'engagement garantit également qu'il y ait la possibilité d'avoir différents experts qui participent au sein de l'équipe dans le cadre de la révision. Donc lorsque l'on évalue un sujet comme par exemple le choix des consommateurs et la confiance des consommateurs, On consulte des experts qui ont l'expertise ou des individus qui ont l'expertise dans les domaines de la concurrence ou de l'économie ou de la protection des consommateurs et leurs avis sont inclus parmi les recommandations qui résultent du travail de l'équipe de révision. Nous avons en même temps d'autres types de révisions qui sont les révisions organisationnelles. Il s'agit donc des révisions qui considèrent les structures mêmes de l'ICANN pour voir si elles sont bien gérées. Vous vous souviendrez que nous sommes sur le point de conclure la révision sur la GNSO, la révision de la GNSO, et que nous sommes sur le point de lancer la révision d'Adlarge. Ce type de révision est un peu différent de la révision de l'affirmation d'engagement parce qu'elle est menée par des réviseurs indépendants. Il s'agit d'experts qui sont engagés par l'ICANN pour évaluer le fonctionnement de cette structure. Les révisions organisationnelles considèrent les différentes structures comme l'ASO, la GNSO, le NOMCOM, la LAC, le RSAC, le SAC et la CCNSO. Ces révisions sont mandatées par les statuts constitutifs et différents groupes du personnel participe à ce travail de révision ensemble avec les réviseurs indépendants pour évaluer les organisations et les manières de les rendre plus efficaces. Alors, quel est le résultat de ces révisions? Les résultats sont une série de recommandations très importantes. Qui sont présentées au conseil d'administration une fois qu'elles ont été évaluées par la communauté. Donc, ces équipes de révision qui sont dirigés par la communauté, vont préparer une liste de recommandations de comment apporter des améliorations au domaine à l'étude. Par exemple, pour ce qui est de la révision du WIS, il serait possible de faire des recommandations qui portent sur comment améliorer la politique WIS et il y aurait une période de consultation publique pour les personnes qui ne sont pas membres de l'équipe de révision pour qu'elles aient la possibilité de s'exprimer à ce sujet et pour vérifier que les recommandations soient ce à quoi ils s'attendaient. Et puis ces recommandations sont envoyées au conseil d'administration qui décide quoi faire de ces recommandations. Le conseil d'administration pourrait avoir certaines recommandations incluses dans le processus de planification au long terme de l'ICANN. Donc dans notre plan stratégique pluriannuel, on a beaucoup de projets et beaucoup d'objectifs et de finalités qui sont liées aux recommandations et qui sont venues de l'équipe de révision, qui ont été proposées par cette équipe. Le Conseil accepte également les recommandations et il pourrait y avoir des modifications aux recommandations, le cas échéant. Du point de vue de la révision de l'organisation, le réviseur indépendant ferait des recommandations qui seraient encore une fois publiées pour consultation publique. Et vous aurez peut-être vu les recommandations de la GNSO où les communautés peuvent s'exprimer sur leur avis concernant les recommandations et s'ils trouvent qu'elles seraient appropriées pour leur mise en œuvre. Et donc, dans le cadre des résultats du travail du réviseur indépendant, ces recommandations sont présentées au conseil d'administration qui doit suivre ce même processus de décider si les recommandations devraient être adoptées, si elles devraient être modifiées. Certaines des recommandations pourraient d'ailleurs être rejetées. Dans le cas de la GNSO, il y avait une équipe de travail spéciale qui a évalué les recommandations et qui a dit que certaines des recommandations du réviseur indépendant n'étaient pas censées. Par la suite, cette équipe de travail spécial de la GNSO a recommandé que certaines des recommandations de ce réviseur indépendant ne soient pas adoptées. Donc voilà le processus que vous verrez si vous participez aux différents processus de révision pour la LAC, par exemple, pour la GNSO. En ce qui concerne le personnel et le conseil d'administration, au cours de ces différents processus de révision, nous essayons de trouver les recommandations des équipes de révision qui sont claires et on essaie de leur attribuer des hiérarchies, des priorités pour voir si elles sont mesurables et réalisables. Après la publication de l'affirmation d'engagement, nous avons vu que certaines des recommandations pourraient ne pas être très claires quant à leur rédaction et que le but des recommandations pourrait ne pas être toujours clair ou évident. Donc à mesure que nous avançons, nous essayons d'orienter les équipes de révision pour nous assurer que les recommandations formulées par l'équipe de révision soient claires pour voir quelle est la priorité des recommandations, les mettre dans l'ordre pour montrer leur importance. Et en même temps, nous essayons de voir comment nous pourrions mesurer ces recommandations, voir qu'est-ce qui est considéré comme une réussite pour une recommandation. Donc tout cela est une partie très importante du processus des équipes de révision. Il faut en même temps toujours être conscient des ressources, parce que bien sûr, certaines des recommandations pourraient impliquer beaucoup de ressources et beaucoup de temps de planification avant leur mise en œuvre, et d'autres pourraient peut-être ne pas avoir besoin d'autant de ressources. Donc cela fait partie du processus que nous suivons lorsque nous soutenons une équipe de révision. En ce qui concerne le rôle de la communauté a un rôle extrêmement important dans le cycle de révision, et même si l'équipe de révision elle-même est un groupe fermé d'individus sélectionnés pour représenter les communautés, la communauté a toujours l'occasion de participer au processus de révision. Au début d'un cycle, par exemple, on aurait des appels volontaires où les membres de la communauté seraient en mesure de proposer des individus pour qu'ils participent à l'équipe. Après cela, il y aurait un processus de soutien à travers lequel les organisations de soutien ou les comités consultatifs peuvent soutenir les candidats qui ont été proposés. Et cela constitue une partie très importante du processus. À mesure que l'équipe de révision continue de travailler, un plan d'action est présenté à la communauté qui participe aux différentes consultations qui ont lieu lors des différentes réunions publiques de l'ICANN, au cours desquelles les documents et les recommandations sont formulés. À la fin de ce processus de rédaction des recommandations, il y aura une période de consultation publique où le public aura l'opportunité d'exprimer son avis sur si la recommandation est appropriée ou pas. Cette diapo est très importante pour moi et je voulais la partager avec vous pour que vous compreniez ce qui aura lieu d'ici un an. En ce moment, nous avons beaucoup de travail au sein de mon département, surtout en ce qui concerne le processus de révision. Comme vous voyez sur la diapo et comme j'ai dit, nous avons la révision de la GNSO qui est déjà en cours. Nous venons de lancer la révision du choix et de la confiance des consommateurs et nous sommes sur le point de commencer la révision d'Adlarge. Tout cela est en cours en ce moment. Le mois prochain, nous allons commencer avec l'appel à volontaires pour la prochaine équipe de révision, qui est la deuxième équipe de révision de la sécurité, la stabilité et la résilience du système de domaine. Et en octobre de l'année prochaine, nous allons lancer un autre appel à volontaires pour l'équipe de révision du WHOIS. Et cette équipe considérera donc la politique du WHOIS telle que je l'ai expliquée auparavant. En 2017, on aura également une troisième équipe de révision qui sera formée pour évaluer la responsabilité et la transparence. L'idée avec ces informations est que vous puissiez être au courant du progrès de ce travail et qu'à mesure que ces travaux vont avancer, vous sachiez qui contacter au sein de la communauté à large pour vous présenter comme volontaire. Cela dit, Terry, je ne sais pas si vous voudriez que l'on fasse l'évaluation maintenant ou plus tard. Terry prend la parole. Merci, Mardi. Nous allons maintenant vous présenter la question que vous devriez répondre. Vous verrez cette question sur la droite. Et la question dit, quelle est la révision CCTRT? Veuillez, s'il vous plaît, sélectionner votre réponse maintenant. Je répète, vous devrez voir la question sur la droite de l'écran. Je vous donnerai quelques instants pour lire les questions et répondre. Et Margie, je vais vous demander de partager la réponse avec nous. Mahdi prend la parole, eh bien, c'est très clair. La réponse est la concurrence, la confiance des consommateurs et le choix des consommateurs. Terry prend la parole. Merci. Margie prend la parole. D'accord. Donc nous allons maintenant donner la parole à Jonathan Sack qui nous donnera quelques informations sur la révision de la concurrence, de la confiance et du choix des consommateurs. Jonathan Sack prend la parole. Merci. Merci de m'avoir invité. J'ai personnellement voté l'équipe de révision intercommunautaire parce que je sentais que c'était une réponse plutôt créative. Mais la révision du CCT est une révision du programme des nouveaux GTLD vue à travers la perspective de comment ce programme a renforcé la concurrence dans l'espace du DNS ainsi que les choix des consommateurs et, en termes généraux, la confiance des consommateurs. Est-ce que c'est à moi de passer les diapos? Terry prend la parole. Non, Jonathan, vous devrez pouvoir le faire. Ah, oui, d'accord, super. Jonathan, un micro. Alors, le mandat ou la mission du CCTRT était d'évaluer comment le programme des nouveaux GTLD a encouragé la concurrence, la confiance des consommateurs et le choix des consommateurs, d'évaluer l'efficacité des processus de candidature et d'évaluation et d'évaluer l'efficacité des sauvegardes. Tout cela en raison de l'expansion rapide du programme des nouveaux GTLD. Vous avez ici un extrait du texte de l'affirmation d'engagement, mais l'idée est en réalité que ces révisions aient été faites une année après le début du programme. C'était ça l'idée à l'origine, mais quand le moment est venu, on s'est demandé quelle était l'idée ou comment on pouvait procéder, parce que le programme n'était pas accompli, il y avait des chaînes qui n'avaient pas été déléguées, donc il était difficile de faire cette évaluation. En tout cas, cette révision sera en cours pendant un moment, donc nous ferons de notre mieux en ce moment et nous allons reprendre ces activités dans l'avenir. Les membres de l'équipe de révision du CCT, comme Majid disait, ont été sélectionnés en mars par la communauté. Nous avons 6 membres en Amérique du Nord. Nous avons également 3 en Afrique, 3 en Amérique latine et les Caraïbes, 3 en Europe et 2 en Asie-Pacifique et Océanie, ce qui fait un total de 17 membres du groupe, puisque le groupe comprend également des experts indépendants qui vont faire les calculs les plus rigoureux associés à la concurrence, au choix et à la confiance des consommateurs, en plus du PDG de l'ICANN et du président des représentants désignés du GAC. Donc je pense que Jamie Headland était désigné comme représentant des membres du GAC et on a eu quelqu'un d'autre qui était désigné pour évaluer ou pour faire partie de la sous-équipe de la confiance et le choix des consommateurs ainsi que des sauvegardes en tant que président. Donc vous verrez ici d'où viennent les personnes en général. Les experts indépendants ici sont Drew Bagley et Stanley Bezen. Et les deux représentants de la LAC sont Kylie Kahn et Carlton Samuels. Sur cette diapo que vous pourrez lire dans votre propre temps, vous verrez ce que nous voulons dire par consommateur, comment nous avons défini consommateur. Et puis également les définitions de la confiance des consommateurs, le choix des consommateurs et la concurrence. La concurrence était surtout du côté de l'offre et le choix était du côté de la demande, si vous comprenez. Et l'un des exercices les plus difficiles était de trouver le marché pertinent, vous savez, d'évaluer la possibilité fournie par ce marché des nouveaux GTLD. D'autre part, il fallait également évaluer le rôle du marché quant au choix, à la confiance et à la concurrence pour les nouveaux GTLD. S'ils étaient offerts comme .tv ou .ly ou s'ils étaient plutôt offerts comme une différente option pour chaque région. Il a été suggéré que l'on évalue l'identité générale du marché Internet pour voir quelle était la portée des réseaux sociaux tels que Facebook et voir où d'autres on pourrait avoir une nouvelle concurrence avec ces nouveaux GTLD et voir dans quelle mesure les domaines de troisième niveau représentaient la concurrence. C'est-à-dire que nous allons évaluer les différents niveaux de concurrence dans les différents marchés pour essayer de définir ces niveaux de concurrence. Ce qui est intéressant de cette équipe de révision est que nous avons commencé à travailler il y a 5 ans avec une résolution du conseil d'administration qui demandait à la LAC et à la GNSO de faire des recommandations de quelles données devaient être recueillies. Je me souviens que Cheryl Langdon Orr a participé avec moi à cette initiative et nous avons ensemble élaboré un ensemble de mesures qui pourraient être recueillies, ce qui implique que lorsque l'équipe a commencé à travailler, elle avait déjà beaucoup de mesures sur lesquelles fonder ses travaux. Donc, entre la GNSO et la LAC, nous avons, comme je disais, défini quelles étaient les mesures et les sources de données. Le personnel a recueilli toutes ces informations depuis et, comme vous verrez sur notre page wiki, qui est cct.wiki, c'est ça l'adresse, je partage cela sur le chat, vous trouverez les documents associés à notre équipe là-dessus, mais vous verrez également les mesures qui ont été définies et où vous pouvez trouver les mesures prélevées par le personnel. Notre équipe agit de manière complètement transparente. Nous essayons de publier des rapports d'évaluation factuels, comme Marie disait au début, et nous essayons également d'avoir des mesures objectif de la concurrence, de la confiance et du choix des consommateurs afin de pouvoir tirer des analyses objectives, quantitatives et ne pas avoir des analyses biaisées. Donc on a ce recueil de données, on a des sondages qui sont menés par Nielsen, on a des rapports économiques qui sont faits par le groupe d'analyse et toutes ces informations sont apportées à ce processus. Donc vous voyez que nous nous concentrons surtout sur le prélèvement de mesures qui nous permettent d'évaluer vraiment le succès de nos recommandations. Donc voilà les objectifs principaux de l'équipe de révision. Je serai prêt à répondre à des questions s'il y en avait. Autrement, je donnerai la parole à Carlton.
Quentin au micro. Merci Jonathan de m'avoir passé la parole. Donc pour ce qui est de la suite, c'était Kylie qui devait la présenter, mais malheureusement nous avons il a eu un empêchement de dernière minute. Donc nous avons divisé notre équipe en différentes sous-équipes selon les différents volets de notre travail. Donc nous avons une équipe qui s'occupe en particulier de la concurrence et du choix du consommateur. Et nous avons divisé ceci à un niveau encore plus profond, donc sur la base des différents accès. Donc Jonathan et Margie ont expliqué que cette équipe de révision était très engagée, était très travaillait beaucoup à définir ses recommandations, et donc nous avons des personnes qui sont impliquées sur le terrain et qui fournissent des données, une analyse des données. Nous avons Nielsen qui est impliqué dans différents sondages, comme nous l'avons dit. Nous avons différentes analyses. Et en ce qui concerne la concurrence, il y a bien sûr la question de prix, concurrence au niveau du prix. Il y a la question des noms de domaine et du prix. Nous essayons de voir ce que nous pouvons trouver en termes de concurrence sur le marché. Nous savons également qu'il y a un aspect de concurrence qui n'est pas lié au prix, et nous le considérons également. Nous essayons de voir aussi dans la chaîne donc la place des bureaux d'enregistrement et des revendeurs. Et nous avons également parlé du marché. Carlton, excusez-moi, je vous interromps. C'est Thierry au micro. Il semblerait que les interprètes ont perdu l'audio. Donc, on va poser un instant pour qu'elles puissent se reconnecter. Donc, il s'agit sans doute de l'interprète espagnole qui n'a plus d'audio. Donc, nous allons lui donner un instant pour qu'elle puisse se reconnecter. Merci beaucoup pour votre patience. Il nous faudra simplement un petit instant. Une fois, merci à tous pour votre patience. Nous avons besoin juste d'une petite minute pour que l'interprète espagnol puisse se reconnecter. Serré au micro, donc encore une fois, désolée de cette interruption, nous avons un problème de connexion avec l'interprète en Argentine, donc nous attendons encore un petit peu pour lui donner le temps de se connecter. Merci à tous pour votre patience. Nous vous demandons encore une toute petite minute. Ça y est, c'est bon, nous avons la confirmation, nous avons les interprètes. Encore une fois, désolé Carlton, vous pouvez y aller. Merci Thierry. Carlton au micro. Donc, nous parlions donc de la concurrence et du choix des consommateurs. Donc, nous parlions de la structure du marché, des différents éléments sur le marché, des différents canaux. Nous parlons de la segmentation, comment est-ce qu'on définit le marché, comment est-ce qu'il est divisé, comment est-ce qu'il est délimité, etc. Donc, nous considérons toutes les questions relatives au nombre de choix. Est-ce que plus cela est équivalent d'un bon choix ou est-ce que c'est équivalent plutôt à une certaine confusion? Nous considérons également ce qui se passe en termes de région, de langue, surtout en ce qui concerne les nouveaux IDN, etc. Donc, tout ceci est pris en considération par l'équipe sur la concurrence et le choix du consommateur. Et donc, au fur et à mesure de notre travail, nous impliquons davantage de membres de la communauté dans le travail. Vous verrez des demandes de la part de notre équipe vous arriver, surtout dans certaines communautés spécifiques, les bureaux d'enregistrement, les revendeurs, les opérateurs de registre, etc. Donc, le processus est continu. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de collecter des informations, d'obtenir des données que nous pouvons ensuite examiner, analyser, de manière à nous assurer d'en arriver à une conclusion basée sur des faits. Alors, pour ce qui est de la sous-équipe sur la protection et la confiance, eh bien, elle considère en particulier ce qui est relatif à la protection. Donc, il y a un certain niveau de protection, comme vous le savez. Vous savez qu'il y a les différentes catégories, donc quatre catégories. je ne sais plus exactement à quoi tout ceci correspond, mais je crois que c'est décrit dans le communiqué du GAC. Et à la base, ces différentes sauvegardes ou protections sont liées à différentes réglementations qui définissent en fait la manière dont elles doivent fonctionner par rapport à certaines lois. Et donc pour les chaînes qui sont identifiées, eh bien elles sont identifiées dans les détails et il faut qu'il y ait des sauvegardes spécifiques. Il y a certaines catégories assez larges qui sont liées à la protection des consommateurs. Il y a en fait une longue liste que vous pouvez consulter dans l'annexe 1 du communiqué. De la même manière, pour les sauvegardes ou les protections de la catégorie 2, eh bien, il y a des termes que l'on appelle génériques. Donc, l'accès exclusif générique doit être au service des intérêts publics, de l'intérêt public. Et donc, encore une fois, il y a une longue définition qui explique ce que c'est qu'une chaîne générique, etc. Et ensuite, il y a tout ce qui est relatif aux engagements d'intérêt public. Et les membres de l'ALAC savent bien que l'ALAC est très engagée, très impliquée dans tout ce qui est relatif à ce type de projet. Et bien sûr, en ce qui concerne les engagements d'intérêt public, il faut qu'il y ait protection de l'intérêt public au niveau mondial, l'intérêt de l'utilisateur final. Tout ceci doit être très solide, doit être respecté, et le point de vue de l'ALAC, c'est que l'ICANN a l'obligation de s'assurer que ces engagements d'intérêt public sont conformes par rapport donc aux opérateurs de registre. Et puis, il y a tout ce qui est les obligations contractantes, donc les accords, les contrats, etc. Ensuite, en ce qui concerne la confiance, il y a tout ce qui est relatif au comportement. Comportement du consommateur, de l'utilisateur final, que se passe-t-il ? Est-ce qu'ils ont confiance dans le DNS d'une manière générale ? Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe dans ce domaine dans les détails. Nous regardons quel est l'impact des GTLD dans les économies en développement. Comme la plupart d'entre vous, vous le savez, l'ALAC a un certain intérêt dans ce sujet. Et l'ALAC a énormément participé à la mise en place du groupe de travail pour le soutien des candidats, puisque ceci est en fait un sujet qui préoccupe énormément l'ALAC depuis assez longtemps. Nous voyons un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là, quel est l'impact des nouveaux GTLD, etc. Et puis, il y a tout ce qui est question procédure, hein, procédurale. Donc, nous faisons attention à ce qui se passe au niveau du guide du candidat. Nous assurons que toutes les procédures qui sont établies sont respectées. Il y a beaucoup d'opinions qui existent. Et pour certains d'entre nous, nous savons bien que ce guide du candidat n'est pas forcément adéquat dans tous les domaines. Donc, que pouvons-nous faire pour atténuer les problèmes, les lacunes de ce guide? Donc voilà ce dont s'occupe la sous-équipe qui s'occupe de la protection et de la confiance. Nous avons également une autre sous-équipe qui s'occupe de manière spécifique au processus de candidature et d'évaluation. Et donc là, nous essayons de voir si oui ou non le processus de candidature et d'évaluation a eu un impact sur la participation de diverses entités dans les marchés mal desservis. Et donc, on essaie de voir si ce type de processus est la raison de ce manque de participation. Et puis, bien sûr, il faut qu'il y ait une opportunité équitable de participation au programme pour tout le monde. Donc, est-ce que le processus d'évaluation est discriminatoire par rapport à certaines communautés? Nous avons également d'autres questions par rapport à la délégation des TLD. Sont-ils un petit peu confus ou nocifs? Il y a l'avis de politique publique du GAC et le cadre de mise en application. Et le dernier point, encore une fois, qui intéresse particulièrement l'ATLAR, c'est la question des communautés. Comment est-ce que nous permettons de mieux servir les communautés en utilisant des TLD qui soient pertinents? Et l'idée, c'est donc d'avoir un meilleur résultat pour les communautés. Je vais maintenant passer la parole à Margie, qui va donc vous présenter la diapositive suivante. Alors bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser tout à l'heure, pendant la partie questions et réponses, un peu plus tard. Margie, au téléphone. En fait, nous allons poser des questions d'un petit sondage, nous allons faire un petit sondage. Donc voilà la deuxième question qui va apparaître à l'écran. Thierry, c'est à vous. Vous pouvez y aller, Margie, si vous voulez. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce que c'est que la révision CCT-RT? Excusez-moi, c'était la première question. Donc, en fait, j'ai fait une erreur. Donc, voici la deuxième question. Elle est maintenant à l'écran. Thierry au micro. Donc, la question que nous avons, la question numéro 2, c'est qui mène la révision? Veuillez maintenant donner votre réponse. Donc, qui s'occupe de la révision? Vous voulez bien nous donner la réponse maintenant? Alors, la réponse, c'est la première. Donc, 77% d'entre vous avaient bien écouté, n'est-ce pas? Puisque c'est un groupe de membres de la communauté et d'experts indépendants. Donc, voilà la bonne réponse pour la question numéro 2. Merci, Thierry. Donc, Margie au micro. Et avant de repasser le micro à Jonathan pour la diapositive suivante, je voulais savoir s'il avait quelque chose à ajouter sur le sujet dont a parlé Carlton sur la diapositive précédente. Jonathan? Jonathan au micro. Non, pas vraiment, en fait. Nous allons laisser les gens répondre aux questions, ou plutôt poser leurs questions et nous y répondrons s'il y en a. Non, je n'ai rien à rajouter là-dessus. Margie au micro. Très bien. Eh bien, alors, si vous voulez bien nous présenter la diapositive suivante, Jonathan. Jonathan au micro. Très bien. Alors, ce que l'on peut également voir sur le wiki CCT-RT, c'est en fait le plan de travail pour les différentes sous-équipes. Donc, et puis également le plan de travail pour l'équipe de révision en elle-même, donc dans son ensemble. Nous essayons de pouvoir terminer certaines recherches d'ici la fin de l'année parce que nous travaillons en conjonction avec le PDP sur les procédures subséquentes, donc qui essaye de voir un petit peu à quoi ressembleront les candidatures à l'avenir pour les nouveaux GTLD, et donc nous essayons de leur faire certaines recommandations par rapport à ce que nous aurons pu découvrir. Donc, nous avons déterminé certains domaines de problèmes. L'autre partie de notre travail, ça a été de demander des données supplémentaires. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons fait une certaine collecte de données au cours des années passées, mais une fois que l'équipe s'est rassemblée, il a fallu qu'on regarde un petit peu où est-ce qu'on avait besoin de davantage de domaines. Et Carlton en a parlé tout à l'heure, en termes de participation au programme dans le monde en développement. Donc ça, c'est difficile à étudier parce que cela veut dire qu'il faut poser des questions à des personnes qui ne se sont pas portées candidates. Donc c'est particulièrement difficile. Essayer de voir comment les contacter, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu davantage de candidats des pays en développement qui se sont présentés pour ces chaînes donc des nouveaux GTLD. Donc ça, ça a été assez difficile. Il faudra peut-être qu'on engage des personnes externes pour faire ce type de recherche. Comme je l'ai mentionné, il y a des sondages, des études économiques qui ont été mises en place il y a un an pour créer en fait une référence, une base pour voir à quoi ressemblaient les prix dans le cadre d'une étude économique et également pour savoir un petit peu ce que pensaient les consommateurs par rapport à ces nouveaux GTLD. Donc ça, c'est l'étude Nielsen. Et maintenant, au bout d'un an, donc ces deux études, en fait, nous les répétons pour voir s'il y a eu un changement pendant l'année et si le sentiment des consommateurs par rapport au nouveau GTLD a changé. Est-ce qu'ils font confiance au système? Est-ce que le comportement a changé, etc.? Et également, nous essayons de voir si, oui ou non, les prix ont changé, si la concurrence au niveau des prix a changé dans le cadre de ces nouveaux GTLD. Donc en mai-juin, nous aurons les résultats de ce sondage du consommateur ainsi que les résultats de l'étude économique. Ensuite, à l'automne, nous espérons pouvoir publier des résultats provisoires et puis également avoir le point de vue de la communauté, le feedback de la communauté. Et en décembre, nous devrions pouvoir publier un rapport, un premier rapport pour commentaires publics, à la fois sur ce que nous avons découvert et sur les recommandations. L'idée, c'est d'incorporer ensuite le feedback de la communauté pour pouvoir publier un rapport définitif, donc en principe en avril 2017. Alors, de toute évidence, nous nous intéressons à votre point de vue par rapport à ce que nous faisons. Nous espérons que vous suivrez notre travail. Nous avons Carlton, nous avons Kylie et nous sommes tous prêts à écouter ce que vous avez à nous dire, à apporter votre point de vue à l'équipe de révision. Comme vous le voyez, il y a nos activités qui sont présentes sur cct.wiki, sur notre wiki. Vous pouvez regarder les archives de nos emails, vous pouvez écouter nos appels, nos réunions, tout est public. Vous ne pouvez pas intervenir, mais vous pouvez toujours écouter et ensuite nous contacter s'il y a quelque chose qui vous concerne particulièrement. Si vous souhaitez nous envoyer un email, vous pouvez le faire à input-tout-cctrt@icann.org. Donc si par exemple il y a des choses auxquelles nous n'avons pas pensé, que nous devrions considérer, eh bien n'hésitez surtout pas à vous adresser à moi, à Carlton et à mes collègues, de manière à ce que nous puissions vraiment faire le meilleur travail possible. Ça c'est nous. Voilà, lors de notre première réunion à Los Angeles, la réunion en face à face, nous allons avoir une deuxième réunion, pardon, ensemble. Bon, il y en a une à Marrakech, donc en fait, ce sera la troisième. Donc, nous allons nous retrouver en juin à Helsinki. Donc, ce sera très sympathique. Nouvel intervenant au micro. Je voudrais mentionner quelque chose. Nous avons une liaison de la GNSO. Donc Carlos Raoul. Carlos est du Costa Rica, mais c'est en fait lui qui fait la liaison avec la GNSO. Et il est également notre liaison auprès du groupe de travail RBS. Jonathan au micro. Ah oui, merci, c'est vrai, Carlton. Donc j'ai parlé du PDP sur les procédures subséquentes. Donc, c'est en fait le groupe qui s'occupe de l'état du programme des nouveaux GTLD à l'avenir. Carlos, en fait, s'occupe de ce groupe de travail, ou plutôt il fait partie de ce groupe de travail, et puis donc il fait la liaison entre nous et ce groupe de travail. Tijani au micro. Merci beaucoup, Jonathan, Carlton et Margie. Merci pour cette excellente présentation, très intéressante. Et j'espère que toutes les personnes qui sont présentes auront pu comprendre. Et j'espère qu'il y aura également des questions à vous poser. Alors, je vais essayer de vous poser une question par rapport à votre recommandation. Qu'est-ce que, à votre avis, nous devons changer dans le guide de candidature? Est-ce que vous recommandez qu'il y ait des changements à l'avenir Parce que tout ce que vous venez de nous décrire, en fait, tout ceci est tout à fait lié à ce guide du candidat. Nouvel intervenant au micro. Merci Tijani. C'est une excellente question. Je crois que la meilleure manière de réfléchir à ceci, c'est que le groupe de travail PDP sur les procédures subséquentes, sera le groupe qui s'occupera du guide du candidat et des changements y apportés. Donc nous allons faire certaines recommandations au conseil qui sont de nature un peu plus large pour s'occuper des problèmes relatifs aux pays en voie de développement ou relatifs à la concurrence, aux choix, etc. Mais les modifications spécifiques du guide, en fait, viendront du groupe de travail sur le PDP. Tijani au micro. Merci beaucoup, Jonathan. Je vois qu'il y a une main levée, mais d'abord, je vais demander à Terry de m'aider à organiser ces questions. Alors, Terry au micro, nous allons maintenant poser donc une question, comme Tijani me l'a demandé, une question qui est la suivante. Que va produire l'équipe de révision? Qu'est-ce qu'elle va produire? Vous pouvez répondre maintenant. Encore une fois, la question, c'est que va produire l'équipe de révision? Alors, si vous voulez bien nous donner la bonne réponse, Margie. Margie au micro. Eh bien, Terry, vous avez tous raison, puisque la réponse, c'est donc des recommandations mesurables et réalisables pour le conseil de l'ICANN. Alors, Carlton avait une question qu'il voulait poser aux personnes de la LAC présente aujourd'hui. Donc, est-ce que vous voulez bien lire votre question, Carlton? Carlton au micro, oui, tout à fait. En ce qui concerne les mécanismes de protection, y en a-t-il certains qui sont particulièrement utiles par rapport à l'objectif qu'ils avaient à la base lorsqu'ils ont été créés? Donc, ça, c'est une question que je pose à mes collègues de l'ATLARGE. Jeanne, au micro. Carlton, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Carlton, nous avons un certain nombre de protections, donc les engagements d'intérêt public, les différentes catégories définies par le GAC, etc., les contrats, etc. Et je voulais avoir votre point de vue à tous, à savoir si vous les utilisez, eh bien, est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils sont pertinents pour vous? Tijani au micro. Je ne sais pas si c'est une question de réussite ou d'utilité, mais en ce qui concerne l'engagement d'intérêt public, peut-être. Bon, je vais peut-être donner la parole à Olivier. Olivier au micro. Je peux répondre à cette question et ensuite j'ai une question à poser. Alors, d'abord Alan. Alan au micro. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question en fait, pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, toutes les protections qui ont été demandées par le GAC n'ont pas été mises en place, puisque le Conseil les a réduites pour certaines de manière significative. Certains candidats ont fait ceci de manière volontaire. Alors, je ne sais pas comment on peut dire que ça a réussi, parce que si ça n'avait pas été fait, on ne s'en rendrait pas compte, on ne pourrait pas savoir. Donc, si vous considérez certains des problèmes éventuels que l'on peut avoir avec les TLD, le nombre de candidats était trop bas, en fait, pour que ces problèmes se produisent dans une grande ampleur. Lorsqu'on aura davantage de ces TLD, il est possible qu'on en ait un sur 10 000 qui cause un problème éventuel. Mais si le TLD a seulement 22 000 enregistrements, eh bien, les statistiques ne montreront pas ce type de choses. Donc je crois que, en ce qui me concerne, il est trop tôt pour juger de la réussite ou non de ces protections. Et si les protections avaient été mises en place, on ne pourrait pas savoir s'il y aurait eu un problème si elles n'avaient pas été mises en place. Donc en fait, je ne sais pas trop comment on peut répondre à ceci. La réelle question, à mon avis, c'est de savoir comment s'assurer d'être suffisamment prudent en matière de sécurité, de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque pour les consommateurs.
Si j'allume le micro, merci Alan. Olivier. Olivier Crépin-Leblanc au micro. Merci tes amis. Je voudrais d'abord répondre à la question de Carlton Samuels. Ce que je partagerai avec vous est mon avis. Et c'est le fait que les engagements d'intérêt public ont été considérés comme quelque chose d'inutile. Et j'étais surpris à l'époque, peut-être que la personne qui l'a dit est présente à cet appel, mais en tout cas, tout ce que j'ai à dire est que cette déclaration d'intérêt a effectivement été inutile, comme cette personne l'a annoncé. Les déclarations sont volontaires, comme Alan l'a dit, et certaines des organisations qui les ont mises en œuvre et qui ont établi un ensemble de sauvegardes pour leur nom de domaine de premier niveau ont en fait excédé ou surmonté les attentes qu'on avait. Une discussion que j'ai tenue hier au cours du forum sur la gouvernance de l'Internet était le fait que les nouveaux GTLD étaient très réglementés avec une liste de sauvegardes qui avaient été mises en œuvre, qui sont très restrictives, et que les organisations qui devraient pouvoir enregistrer des TLD n'ont pas pu le faire des fois. Donc je pense que ces restrictions étaient un peu trop strictes. Et cela m'a fait penser au travail du groupe de travail JAS, pour le soutien conjoint des candidats qui aidait les candidats à essayer de se conformer à ces régulations. Mais en fait, ce qu'ils ont trouvé à la fin du processus, c'était que les exigences pour pouvoir participer à ce programme de soutien des candidats étaient tellement nombreuses que personne, finalement, ne qualifiait pour y accéder. Donc, dans la catégorie 1 de la liste que le GAC a fournie, comme Alain l'a dit, on ne voit même pas l'intérêt à continuer à avancer avec ce type de manifestation, ce type de déclaration. Je pense qu'il n'est pas utile pour les personnes qui sont intéressées par le processus lui-même. Nous avons pris du retard avec le processus parce que à chaque fois, nous nous sommes retrouvés en revenant en arrière et on faisait des cercles sans arriver à nulle part. C'était des tours en rond, hein. Donc malheureusement, à la fin de ce processus, vous voyez qu'on n'a rien accompli, au moins à mon avis. Lorsque les parties qui sont contactées par Adlarge disent qu'elles ne sont pas intéressées, on voit clairement que le processus n'a servi à rien. J'ai une question, mais je vois que Alan avait levé sa main, donc je pense que ce serait mieux de lui donner la parole. Merci. Alan prend la parole. Oui, merci. Moi aussi, j'ai une autre question que je remettrai à plus tard. Mais je serai un peu plus généreux que Olivier concernant l'avis du GAC et les réactions du conseil d'administration à ces conseils du GAC. Le conseil d'administration a mis en œuvre la plupart des conseils du GAC, au-delà de la vérification et la validation des crédentiels des personnes avant de leur allouer un nom de domaine de TLD. Dalak, a mené une révision exhaustive des TLD et le résultat a été, entre autres, bien sûr, que le GAC avait un peu trop de pouvoir à travers cette liste. C'est-à-dire qu'il y avait des TLD où la vérification, la validation et tout ce qui était préalable à l'attribution du nom de domaine était valable. Et d'ailleurs, certains TLD l'ont fait à titre volontaire. Mais la liste était un peu trop longue, c'est vrai. Donc, indépendamment de la liste, le conseil aurait pu prendre la bonne décision, mais malheureusement, il faudrait qu'il y ait un terrain de compromis, une possibilité d'avoir un point entre les deux. Et je suis optimiste parce que je pense qu'entre l'équipe de révision et le PDP, on pourrait peut-être arriver à un sous-ensemble de TLD qui pourrait être ce qu'on exige pour un sous-ensemble. Merci. Vous m'entendez? Si j'ai mis au micro, oui, pardon, j'étais en muet. Merci Olivier, Alan et Olivier en fait, c'est ça la liste dans l'ordre. Ah, Olivier, vous avez la parole. Olivier? Olivier prend la parole. Oui, je suivais votre exemple et j'étais en muet moi aussi. Je voudrais reprendre la réponse de Jonathan. Sur les procédures du PDP qui vont tenir compte des contributions du groupe de travail sur le CCT. Que je sache, le CCT sera présenté au conseil d'administration et par la suite, cela sera présenté au PDP. J'espère que l'on pourra opérer suivant le système des pouvoirs communautaires d'ici la fin de ce processus. On ne sait pas très bien, par contre, si la communauté pourrait annuler les contributions du CCT. Jonathan Sack prend la parole. Je pense, Olivier, que le but des pouvoirs communautaires est de pouvoir rejeter tout type de conclusion de l'équipe de révision, mais sachez que la réforme de la responsabilité, en fait, vise à réviser les engagements de l'affirmation d'engagement pour les inclure dans les statuts constitutifs. Donc, s'il y a des recommandations d'une équipe de révision qui ne sont pas pertinentes, elles ne vont pas être automatiquement acceptées ou automatiquement rejetées parce que nous avons une exigence de révision du nouveau programme en ce qui concerne la concurrence, le choix et la confiance. Si les mécanismes d'habilitation de la communauté sont appliqués et que la communauté a le pouvoir de rejeter l'approbation, la désapprobation du conseil d'administration, ce serait la communauté qui agisse dans la portée de son pouvoir, qui agira dans la portée de son pouvoir. Vous comprenez? Olivier prend la parole. Oui. Ce qui m'inquiète un peu, est le fait que cette partie de l'affirmation d'engagement pourrait être intégrée au nouveau statut constitutif. Je me trompe peut-être, mais que je sache, cette rémission n'allait se faire que pour cette nouvelle série de nouveaux GTLD, pour cette série actuelle, et je ne suis pas sûre qu'il serait pertinent de l'intégrer au nouveau statut constitutif pour les séries futures également. Jonathan prend la parole. Oui, cela a été intégré à la révision pour les séries futures. D'ailleurs, il y a un mécanisme communautaire qui vous permet de modifier cela en tant que communauté habilité. Mais tout ce que cela veut dire est que la communauté a la possibilité d'ajouter et d'éliminer des révisions selon ce qu'elle veut voir. Donc oui, c'est difficile. En tout cas, dans l'avenir proche, nous attendons à avoir des révisions de CCT, mais je ne vois pas pourquoi les recommandations de cette équipe pourraient être rejetées à travers les nouveaux mécanismes communautaires. Tijani prend la parole. Merci, Jonathan et Olivier. Alan, vous avez la parole. Alan prend la parole. Merci.
Or, pour rebondir sur ce que vient d'être discuté, il me semble qu'il y avait une partie du texte qui disait que la révision ne serait pas déclenchée par une nouvelle série s'il y en avait. Je pense que cela, en fait, était conditionné à une règle quinquennale, mais je ne sais plus très bien comment cela fonctionnait. Moi, ce qui m'a toujours intriguée est le concept de la concurrence dans le domaine des TLD. Et cela, en fait, me fait penser à l'époque où j'ai rejoint l'ICANN. Et je me suis aperçue dès lors qu'il nous fallait de plus en plus de TLD. Et pour moi, les TLD ne font pas la concurrence les uns les autres. En ce moment, nous avons près de 2000 TLD sur Internet. Et si vous voyez le sous-ensemble qui est en concurrence à tout instant, vous verrez qu'on a moins de 2000 TLD. Jusqu'à très récemment, le .com pourrait être en concurrence avec un CCTLD dans une région où le domaine était en train d'être enregistré. Mais aujourd'hui, on a un .ca, un .org, différents points. Donc, il n'est pas probable qu'on enregistre un .auto ou d'autres noms de domaine, tels que .hotel ou .io. Il y a une très petite quantité de TLD qui pourrait se porter concurrence entre eux. Donc je ne sais pas s'il est censé d'évaluer la concurrence dans l'ensemble de l'espace des noms de domaine, dans l'ensemble du marché. Est-ce que il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer quel est le sens de le faire? Jonathan Sack prend la parole. Merci Alan. Si vous voulez interrompre Carlton, vous aurez la possibilité de le faire, hein. N'hésitez pas. D'ailleurs, nous consacrons quelque temps à discuter de cette question parce que, comme j'ai dit au début, nous avons une analyse qui doit suivre les différentes définitions des différents marchés. Donc, en ce moment, nous évaluons la division du marché des nouveaux GTLD en différents types de marchés. Donc, on se demande s'il y a 4 ou 5 TLD qui pourraient être utilisés pour l'éducation ou s'il y a plus d'un TLD qui pourrait être utilisé pour la photographie. Il y a également des groupes linguistiques qui pourraient être créés. Il y aurait des groupes géographiques qui pourraient être créés également. Donc, comme vous dites, la quantité de TLD en concurrence ne serait pas le total des TLD existants, mais en fait, l'évaluation à tirer est le fait de voir s'il y aurait de la concurrence dans les différents marchés. Et il me semble qu'il est raisonnable de se demander si les nouveaux GTLD créent une concurrence ou pas lorsqu'on les compare aux GTLD hérités, génériques, hein, tels que le .com. Donc peut-être que vous voulez enregistrer crimber.genealogie et que vous trouvez que cela n'est pas disponible, vous serez forcé de trouver une autre chaîne pour pouvoir publier votre généalogie ou un crimber.club, n'est-ce pas? Donc, nous évaluons différents marchés, on les regarde dans l'ensemble et dans le sens vertical, on les compare au .com. Le .com avait un marché successif, par exemple, donc il faut que l'on voit l'impact sur les .com du programme des nouveaux GTLD. Ce ne sera pas facile en tout cas, mais c'est ce que nous essayons de faire, Alan. Nous essayons de voir si on a davantage de concurrence à l'heure actuelle grâce au programme des nouveaux GTLD. Bien sûr, il y a une partie de la communauté de l'ICANN qui sent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de la concurrence pour justifier le programme des nouveaux GTLD. Il y en a qui suggèrent que si nous pouvons mitiger les conséquences sur le marché de l'expansion de la quantité de nouveaux GTLD, nous devrions permettre aux personnes de créer des GTLD tout simplement sans devoir faire des analyses économiques ou sans regarder s'il y a eu davantage de choix ou davantage de concurrence. On n'aurait pas besoin de justification pour ce programme. Je pense que
nous essayons de trouver une justification parce que nous voyons que nous ne mitigeons pas les conséquences pour les utilisateurs finaux, pour les titulaires du nom de domaine, que cela génère des confusions, qu'il y a davantage d'attaques, etc. Mais on se retrouve finalement avec un déséquilibre. Alan prend la parole. Oui, j'apprécie ce que vous dites, mais je me demande si c'est une question de coercion ou une question de générer davantage de fonds, davantage de demandes du côté du marché.
Oui, Alan, c'est une excellente question. Et d'ailleurs, Holly, votre représentante, a déjà présenté cette question de manière, en fait, par inadvertance. Simplement, en parlant, la première chose, c'est donc la propriété intellectuelle. Il faut que j'achète tout un tas de TLD pour protéger ma marque. Bon. Mais l'autre possibilité qu'a présenté Holly, c'est de savoir si nous avions créé un scénario pour, en fait, couvrir son entreprise. Qu'est-ce qu'il faut s'occuper de couvrir tous les lieux où les gens pourront aller chercher votre entreprise? C'est ça la question. Et Alan au micro, c'est exactement pour ça que nous avons cette question dans mon groupe de généalogie. C'est ça. Carlton au micro. Je voulais ajouter quelque chose là-dessus en ce qui concerne la concurrence. Parce que bien sûr, cela prend beaucoup de votre temps. Et Jonathan a mentionné tout à l'heure le travail des sous-équipes. Et puis donc il y a la question de la protection des marques, de la propriété intellectuelle. Et il faut faire attention parce que c'est différent de la concurrence. Nous avons un groupe qui s'occupe justement de la concurrence non relative au prix. Donc, tout n'est pas relatif au prix. Ceci a évolué au fil du temps. Mais en tout cas, en ce qui concerne la segmentation du marché, ce que nous essayons de faire, je pense, pourra nous aider à obtenir des réponses que nous pourrons utiliser pour répondre à la question de savoir si oui ou non la concurrence a émergé dans l'espace des noms de domaine grâce à ces nouveaux GTLD. Et je crois maintenant que plus nous avons d'informations, plus nous pourrons aider la communauté. Donc par exemple, dans l'exemple de la généalogie, eh bien, cela nous permet de voir. C'est un problème de micro, nous ne l'entendons pas. Nous allons voir si nous pouvons le contacter. Terry au micro. Carlos, nous pouvons vous téléphoner également. Je viens de vous envoyer en tout cas un petit message. Il a retiré sa question. Il voulait en fait répondre à Alan, mais c'est bon. Janie, je ne sais pas si vous êtes en train de parler, mais en tout cas, votre micro est éteint. Yes, ça marche maintenant. Nous vous entendons. Allez-y, Janie. Janie au micro. Merci beaucoup. En fait, en ce qui concerne le problème de Carlos, donc il ne fonctionne pas. Alors, on va maintenant passer la parole à d'autres personnes. Y a-t-il des questions supplémentaires? Thierry au micro. Il y a une question dans le chat, donc je vais vous la lire. Elle nous vient de Bachar Bong. Il y a peu de demandes d'Afrique, depuis l'Afrique donc. Que peut-on faire pour avoir davantage de candidatures et également pour avoir toujours le même problème? Que pouvons-nous faire donc dans ce domaine? Alors, Merci pour votre question. Il y a une sous-équipe séparée qui s'occupe du processus d'évaluation, justement pour voir s'il y a eu peut-être des manques d'incitation ou des lacunes pour ce qui est des candidatures venant d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, qui auraient pu créer ce manque de candidature. Donc, bien sûr, la réponse facile, c'est que c'est une question d'argent. Désolée de vous interrompre, mais encore une fois, il semblerait qu'il y a un problème de connexion des interprètes, donc espagnols, j'imagine. Donc, nous allons leur donner un instant pour qu'elles se reconnectent. Il y a une personne sur la ligne française qui pose une question. Donc, donc la question venait de la ligne française, pardon. Thierry au micro, les interprètes sont reconnectés. Merci beaucoup pour votre patience. Alors Jonathan, allez-y, vous pouvez continuer. Jonathan au micro. Très bien. J'essayais d'écrire quelque chose dans le chat au cas où on n'aurait pas la connexion. Mais l'idée, c'est que nous essayons de voir un petit peu quelles sont les raisons pour ce manque de candidature des pays en voie de développement en général, y compris donc l'Afrique. Et dans ce cadre, nous essayons en fait de nous adresser au même type d'entités, que ce soit des détenteurs de marques, que ce soit des communautés, des bureaux d'enregistrement, etc., qui auraient pu se présenter candidats dans le monde développé, donc en développement, et qui correspondent à ceux du Nord. Et en fait, de leur poser la question, est-ce que c'était une question d'argent, de manque de connaissance du programme, peut-être une manque de confiance dans le marché pour les nouveaux GTLD en Afrique. Et donc, une fois qu'on aura une meilleure idée sur la raison pour laquelle ces candidatures ne se sont pas manifestées, eh bien, nous pourrons présenter des recommandations au Conseil pour mieux organiser, pour mieux présenter et motiver ces candidatures dans le monde en développement. Tijani, au micro. En fait, la même personne a demandé pourquoi est-ce que les demandes de nouveaux GTLD se sont interrompues. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, Jonathan, au micro. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le programme des nouveaux GTLD, en fait, dans le but de ne pas être un petit peu trop important, a été conçu dans le cadre des différentes séries, limitées dans le temps. Et en fait, l'ironie du sort, c'est que nous avons eu plus de demandes que prévu. Et donc, ce qui a été considéré par l'équipe de révision CCT et par le PDP sur les procédures subséquentes, c'est de savoir si oui ou non les nouvelle candidature devait être limitée à une série dans l'avenir, ou est-ce qu'il faut changer le système pour pouvoir en fait faire des demandes de manière continue. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant nous avons une pause, parce que nous mettons en place ces révisions. Mais il est tout à fait possible qu'à l'avenir, ces candidatures puissent être faites de manière continue. Tijani au micro, merci. Et il a également posé la question du point Africa. Il avait une préoccupation par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? Alors, Jonathan, au micro. Je pense qu'il faut que j'attende que mon avocat arrive pour répondre à cette question. J'hésite à répondre, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire par rapport à ça. À moins que Carlton veuille en parler. Si j'ai le micro. Je crois que le problème de Carlos est résolu. On va voir si on peut lui donner la parole. Carlos au micro, vous m'entendez bien? Ça va? Oui, oui. Je voulais simplement faire un commentaire par rapport à une question qui a été posée, ou un commentaire. Nous avons passé un certain temps à définir la concurrence, la confiance du consommateur et les choix pour le consommateur. Donc cela vous donne une première étape pour expliquer les choses. Et le deuxième commentaire que je voulais faire, c'est que la concurrence, en principe, est considérée du point de vue du consommateur. Donc là, il s'agit de candidats ou d'utilisateurs de l'Internet. Et comme il a déjà été mentionné, le rôle de la concurrence, c'est à l'arrivée, donc obtention d'un nouveau TLD, par exemple. Nous en avons parlé tout à l'heure, donc avec l'histoire du guide du candidat. Mais ce n'est pas facile. Et entendre Carlos. Mais comme Jonathan l'a dit, il y a des définitions très claires qui ont été mises en place par rapport à la concurrence, à la confiance et au choix pour le consommateur. Merci beaucoup. Tijani au micro. Merci beaucoup, Carlos. Nous allons maintenant passer aux questions d'évaluation puisqu'il ne nous reste plus que 4 minutes. Thierry, c'est à vous. Thierry au micro. Oui, merci. Nous allons maintenant vous poser des questions d'évaluation de l'appel. Donc il y a en fait 10 questions. Première question. La fonctionnalité de sous-titrage dans la salle Adobe Connect fait partie d'un projet pilote. Donc nous vous demandons de répondre si oui ou non c'est adéquat. Est-ce que c'est très utile, utile, pas très pertinent, inutile et aucun vote. Question numéro 2. Veuillez identifier toutes les catégories qui vous décrivent. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est handicapé? Est-ce que vous êtes un participant pour qui l'anglais est une deuxième langue? Est-ce que vous êtes un participant qui ne parle pas anglais? Est-ce que vous êtes un participant qui travaille avec une bande passante limitée? Ou bien aucune des réponses ci-dessus, dernier, ne vote pas. Question numéro 3. Quels sont les avantages que vous avez eus à avoir accès au sous-titrage? Donc, meilleure compréhension des sujets, capacité à comprendre la séance de manière plus efficace, bonne orthographe de la terminologie technique, avantage personnel, du point de vue d'être apprécié, avoir pu mieux participer. Suite à cette question, pouvez-vous décrire les avantages du sous-titrage? Si j'ai mis au micro. C'était donc la dernière question. C'est ça? Thierry au micro. Tijani, comme il s'agit d'un webinaire, en fait, il y a 10 questions. Tijani au micro. Parce qu'en fait, je voudrais que on termine notre présentation après cette question. Donc, voilà. Alors allez-y, si vous voulez donner la parole à la personne qui avait la main levée, on peut s'occuper de ça et on terminera avec les dernières questions après. Tijani, au micro. Renata, allez-y. Vous avez la parole. Voilà, donc elle a baissé la main, c'est ça, elle a baissé la main, donc vous pouvez y aller. Thierry, au micro. Question numéro 4. À votre avis, ah oui, dans quelles autres réunions pensez-vous que les sous-titrages devraient être obligatoires? Groupe de travail, task force, donc équipe de travail, groupe ad hoc, appel RALO, appel ALAC, appel CCWG ou autres unités constitutives? Question numéro 5. Que pensez-vous de l'appel d'aujourd'hui en termes de qualité de l'information? Donc, de 5 à 1, 5 étant très satisfaisant et 1 pas satisfaisant du tout. Sixième question. Est-ce que vous pouvez parler de la qualité des présentations? 5, très satisfaisant. 1, pas satisfaisant du tout. Question numéro 7. Est-ce que vous prévoyez d'utiliser certaines des informations dans le cadre de votre structure à large? Oui, non, aucun vote. Et donc, si oui, enfin, y a-t-il d'autres commentaires ou d'autres recommandations par rapport au contenu de cette séance? Je laisse les questions à l'écran. Prenez le temps de remplir les questions. Tijani, je vous repasse la parole pour terminer l'appel. Tijani au micro. Merci beaucoup, Thierry. Donc, effectivement, vous pouvez continuer de répondre aux questions si vous avez besoin de davantage de temps. C'est très utile pour le personnel. Vous pouvez le faire sur Adobe Connect, mais si vous n'avez pas terminé, vous pouvez également le faire par le biais du chat ou par email. Merci à tous. J'aimerais remercier tous les intervenants. Carlton, Jonathan, président de l'équipe de révision et Margie également. J'aimerais également remercier les interprètes et tout le personnel qui nous a aidés pendant cet appel. Merci à tous et nous nous retrouverons lors du prochain webinaire. Au revoir à tout le monde et à bientôt. Encore une fois, la réunion est terminée. Merci beaucoup d'avoir participé. N'oubliez pas de déconnecter toutes vos lignes et nous vous souhaitons